bien, nous nous retrouvons pour l'émission Tournepage. Voilà. Alors, le livre qu'on vous propose pour cette émission, Les limons vides, le livre de Dina,
c'est le premier de trois. Mais petit, il faut préciser pour ne pas avoir peur.
Oui, c'est petit, puis ça se lit tout seul. On a l'impression, bon, c'est marqué 1, mais en fait, on peut
s'arrêter
lire 1, on s'arrête là, et ça fait un tout. L'auteur, c'est Herbjørg Wassmo, et en édition 10-18, donc c'est très, très abordable au niveau financier. Et c'est un livre qui nous emmène ailleurs. Alors, on est dans les pays nordiques. Suède, Norvège, enfin vraiment...
Norvège. Oui.
Et on est transporté dans ce milieu où il y a les fjords, la nature violente, le froid, le gel. Et on a une espèce de correspondance entre les personnages du roman et puis l'espace.
Et il y a les maîtres et les serviteurs.
Alors, il y a les maîtres et les serviteurs. Il y a... On peut prendre le fil psychologique... Comment cet accident va marquer l'héroïne et tout au long du livre, il y a constamment la présence de cet accident qui est là pour qui sous-tend l'histoire. Même si on n'en parle pas, quelquefois on en parle, quelquefois on l'évoque, il est là cet accident. Il est présent dans cette petite fille qui grandit et que l'on voit être enfant insouciante, puis enfant marqué par l'accident. Et ça renvoie aussi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ça renvoie à des situations présentes. C'est-à-dire que dans ce roman, qui nous mène au XIXe siècle, qui met en scène des personnages, le gouverneur, le commissaire, le musicien...
Qui est un précepteur. Enfin, ce personnage-là est absolument réussi.
Le précepteur.
Le précepteur qui est musicien, c'est vrai, mais qui quand même s'occupe de la petite sur tous les plans. Et qui a l'air de ne pas exister, mais qui en fait a une importance colossale. Et puis, dans aussi le côté omniprésent, ce qui m'a frappé, c'est la religion, mais ça dans les pays du Nord. Alors, je ne sais pas si vous aviez, forcément, le festin de Babette, ça vous dit quelque chose. Il y a ce mélange de rigueur, et puis où on doit obéir aux préceptes de la religion, et puis à un moment, on a le droit de se lâcher. Et il y a aussi ça, la religion avec... très rigoureuse, mais avec le maître qui prend ce qui lui va bien dans toute cette histoire-là. Enfin, quand je dis le maître, ça pourrait presque être les maîtres. Et puis, les serviteurs qui acceptent, sans en penser moins, des situations...
Ils en font plus ou moins, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est très léger. Il y a par la présence du pasteur, c'est
oui,
clair.
Oui, mais on se dit que oui, il y a quand même des citations tout le temps. On sent que c'est quand même derrière tout le temps. Et c'est très étonnant parce que c'est là et c'est pas là. Parce que la religion, on la cite, on fait attention. On est soit on est pratiquant, soit on ne l'est pas. Mais en tout cas, elle est là parce que ça m'a fait penser à oui, c'est un peu... classique chez eux, ce mélange de religion et d'eux, on va passer dessus, quoi.
Et alors, donc, il y a l'aspect psychologique des secrets de famille.
Ah oui.
Ça, c'est aussi omniprésent, cette... voilà, le secret de famille qui... Parce que cette petite... Après cet accident, la petite est éloignée.
Ah ben oui, mais il y a la marâtre. C'est quand même si on dit
alors,
pas tout.
Alors, il y a la marâtre. Et puis, alors, après, il y a effectivement l'éducation. Mais après, il y a la belle-mère qui vient remplacer la mère. Et puis, ces secrets de famille qui restent là, très présents. Et puis, ces actes qui sont... Comment dirais-je? Elle défait les tableaux. Elle décroche les tableaux. C'est là qu'on saisit, par petites touches, l'affrontement entre... la belle-mère.
La marâtre et la petite.
Oui.
Oui. Et alors moi, j'ai admiré, mais tout le temps, mais c'est... Dina, on dirait maintenant que c'est un électron libre, mais c'est plus que ça, parce qu'elle a une...
Moi, je pensais à l'enfant sauvage.
Ah oui, mais elle a... Oui, oui, sauf qu'elle a quand même un talent de musicienne. Elle a quand même beaucoup de choses pour elle, mais elle est foncièrement rebelle.
Et foncièrement abandonnée.
Et foncièrement abandonnée. Et elle a une force et un courage, parce qu'il faut quand même oser aller rechercher les tableaux décrochés par la marade pour les planter aux pieds de son père et lui faire comprendre. Et c'est une lutte de pouvoir. On pourrait dire que c'est... Depuis que le monde est monde, il y a des marâtres qui
portent la langue. Mais en plus, là, on a aussi... autour du machisme, il y a la marâtre, il y a le non-dit, il y a les secrets de famille, mais il y a aussi le machisme qui existait à l'époque, ou en tout cas à l'époque où on peut s'imaginer que le livre est écrit.
Oui, parce que tu parlais du 19e, je me suis dit la même chose, mais en fait, il arrive... Enfin, je crois que c'est une femme d'ailleurs, Herbjørg, avec un nom pareil, je ne sais pas trop. Elle arrive à tout raconter sans donner un seul indice. C'est quand même assez fort. Hein. On devine, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a une grande présence des bateaux, il y a la présence des chevaux, il y a la présence du... Enfin, ou plutôt l'absence de modernité.
D'un monde qui n'est pas le XXe siècle, d'un monde qui n'est pas... qui n'évoque pas la guerre, les conflits, les rencontres de cultures très, très différentes. Et là, on est vraiment dans un monde fermé. On est en Norvège, on est entre la ferme, entre la mer, entre l'espace, entre les fjords, entre le vent, la neige, la brise. Enfin, vraiment, on est dans un monde qui est quand même relativement clos, même s'il a, par cette nature, des ouvertures vers l'extérieur.
Et il y a aussi beaucoup de personnages qui sont comme s'ils n'existaient pas. Et qui existe parce que Dina existe comme une espèce de reflet. Elle les fait exister par son regard ou par sa volonté farouche. Il y a le personnage de la mère à un moment. Moi, j'aime beaucoup cette femme qui comprend tout et qui mène... Alors, on parlait du machisme, c'est vrai, mais elle, c'est quand même elle qui mène tout le monde.
La grand-mère,
sans un mot plus haut que l'autre. Mais elle, je l'adore, vraiment. Ça, je voudrais bien être comme ça. Enfin, je ne sais pas.
Elle comprend au-delà de ce que... Au-delà des mots, elle comprend.
Et elle comprend, elle fait comprendre qu'elle a compris, et elle s'est toujours trouvé le chemin des âmes, en fait, de chacun des personnages, parce que tous ces personnages, au fond, se débattent dans des tempêtes personnelles. Ils sont tous en souffrance et elle...
Alors c'est ça aussi qui est étonnant. C'est qu'en fait, il y a cette petite fille qui est la trame de l'histoire, puisqu'elle est chez ses parents, puis chez son père, puis il y a la marâtre. Et puis finalement, on essaie de se débarrasser d'elle quelque part. Bon, il y a ce précepteur qui est vraiment le point d'ancrage et qui la comprend, qui obtient d'elle des tas de choses... Et entre autres, qui obtient d'elle qu'elle se réalise par la musique. Mmh. Ça, c'est assez aussi...
Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, c'est toujours... Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, je ne sais pas, ou nous ne savons pas comment il lui a fait comprendre. Ça, on n'a pas les clés, hein. C'est à nous. Ça, j'aime ça aussi, parce que moi, j'essaie de répondre à ces questions-là, c'est plus fort que moi. Qu'a-t-il pu lui dire pour arriver à l'apaiser, à la faire écouter, à la faire se dépasser, à la faire travailler, parce que travailler le violoncelle, franchement...
Oui, c'est ça, c'est quand même... C'est pas n'importe quel instrument.
Non, c'est pas du piano, hein. La note n'est pas faite, c'est encore plus exigeant et c'est douloureux. Mais tout ça, non, en fait, ça va bien avec lui. Il obtient ce qu'il veut d'elle, c'est...
Alors ça, c'est l'enfance. Et puis alors après, eh bien, elle se trouve mariée. Alors là, quelquefois, c'est jubilatoire. On se dit, franchement... Alors je l'imagine en haut de son arbre, là, qui... Enfin bon...
Ne le raconte pas trop, parce qu'il faut avoir des surprises, là. Mais c'est vrai que c'est très bien. Et c'est un peu ce qu'il y a en anglais, le comic relief. C'est-à-dire que... On est quand même dans un monde assez, assez, assez rude et assez angoissant. Et il y a des scènes où, c'est vrai, tu dis que c'est jubilatoire, c'est vrai. Parce que là, c'est comme si elle s'était dit, non, mais il faut quand même que je les fasse rire un peu, ça commence à bien faire toute cette souffrance. Et alors là, elle est vraiment, enfin, elle ou il, peut-être que je vais trouver d'ici là, j'ai pas pris le temps de chercher. L'auteur, en tout cas, est très très fort pour...
Puis alors, il y a les éléments de la nature, parce qu'il y a le violoncelle, mais il y a le cheval. Ce cheval noir, oui. Ce Lucifer, qui intervient un certain nombre de, dans un certain nombre de séquences et qui est la relation avec l'animal.
Mais ça aussi, il y a aussi des tas de plans de lecture, parce que quelqu'un qui choisit de bien s'entendre avec Lucifer, qui porte bien son nom, moi j'ai connu ça, avec un cheval qui s'appelait Vitriol, dont tout le monde avait peur, mais pas moi. Parce que moi, je disais, t'as pas de chance, personne t'aime. Et je lui ai dit ça. Bon, évidemment, je parlais pas aux chevaux, mais bon. Et puis, lui, il a senti que voilà. Et c'est incroyable. Et ça, c'est présent. Ce monde-là, et le symbole du cheval, quand même, c'est intéressant. Hein. On a trop parlé.
Alors, ce qui m'a aussi intéressé dans cette affaire, c'est par moment, il y a la relation avec la maman, avec l'esprit de la mère. Et là, d'un bout à l'autre, il y a aussi un livre qu'on peut lire avec des tas de plans de lecture différents. On aime les animaux, on aime la musique, on aime la Norvège, on aime un personnage ou l'autre.
La poésie.
Et on aime la poésie avec ces références à la mer
et aussi, je trouve, qui est intéressant, c'est la relation à la mort. Alors ça se voit souvent beaucoup plus dans la littérature islandaise que norvégienne. Mais la relation aux morts, alors moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Ils ont une façon de la vivre et d'en parler qui est vraiment unique dans ces pays-là et qui est en fait émouvante et très juste. Alors, elle n'est pas toujours forcément poétique, ça dépend de la personnalité de chacun, mais on ne fait pas comme si, et où on ne se dit pas « c'est trop douloureux ». Non, 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 ils sont avec nous, alors, de façon différente, suivant les auteurs, mais...
Mais par petites touches.
Oui.
Par touches qui suggèrent, que ce soit la mort accidentelle ou que ce soit le suicide, il y a toujours ces petites touches. Et puis la relation à ce personnage de Thomas, là aussi, je me suis dit, c'est assez étonnant parce que d'un côté, il y a l'être cultivé qui initie à la musique et de l'autre côté, il y a ce personnage qui sort de l'écurie et qui aussi intervient dans la vie de l'héroïne. Et là aussi,
ça correspond à ce que je te disais. Il est attachant et tout, mais au début, c'est comme si c'était un non-personnage au regard de tous les autres, pas de nous, bien sûr. On en fait un portrait où, ben non... Toi, tu n'existes pas, toi, tu n'es rien. Hein? Et puis finalement, non, il n'est pas rien du tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse aussi chez cet auteur, avec tous les personnages, quelle que soit leur... de tendresse et de force en même temps.
Voilà, alors ouais. Pour conclure, donc, Les limons vides, le livre de Dina, c'est le volume 1. C'est traduit du norvégien par Luce Inch. Il y a une écriture qui est vraiment très sensible, des parties très poétiques. Donc, même simplement, pour l'amour de la langue, on peut lire ce livre. Et je vous propose pour ce tourne-page. Et on vous dit bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.